le premier étage. Sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. Avec des mitraillettes, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffe les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 et pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Alors autour de la table, il y a pas mal de monde et c'est plutôt cool aussi. J'aime bien prendre un petit mot comme la Serge, c'est plutôt cool. Donc il y a Vincent.
Salut.
Il y a Marlène.
Bonsoir.
Il y a Christian.
Bonsoir.
Il y a Alex.
Salut tout le monde.
Il y a Serge qui est au bocal, mais comme c'est pas un bocal, il y a Serge à la technique.
Bonsoir à tous et à toutes.
Oh oui, Sylvia qui vous salue. Donc Alex va nous faire le déroulé de cette émission qui va être bien chargée.
Ouais. Alors déjà, pour rappel, pour nous contacter, on peut nous écrire au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-FPP, et il y a du changement au niveau du numéro de téléphone. Du coup, le nouveau numéro de téléphone de l'envolée, c'est le 07 53 10 31 95. Et on va le répéter plusieurs fois pendant l'émission, quoi. Donc aujourd'hui, c'est une grosse émission. On va commencer par lire une lettre de Libreflow qui date d'il y a 2 semaines et qu'on a reçue la semaine dernière. Après ça, on va parler de la mort de Gourdana à Fleury. On va revenir sur cette histoire.
2012.
Et puis sur un procès de violence policière. Et On va revenir sur un procès là, qui s'est passé hier de violence policière. Ça va être suivi d'un appel pour un procès de matons, qui sont pareils, on appelle ça violence des matons, quoi, qui a lieu la semaine prochaine à La Rochelle, après le meurtre de Sambali par des matons à la centrale de Saint-Martin-de-Ré. Et à la fin de l'émission, on aura un appel de la prison pour sans-papiers de Vincennes pour raconter les violences policières et la complicité de l'ASFAM, l'asso qui est présente dans le centre de rétention. Du coup, on va commencer l'émission par lire la lettre de Libreflow.
Salut à vous. C'est encore moi, je vous écris de plus en plus souvent, dirait-on. La différence de situation entre le moment d'écriture et celui de la lecture, imposée par la surveillance de la correspondance, donne envie de vous envoyer une mise à jour. Concernant mes dents, les soins progressent. Ce qui s'était barré a été refait, et si mon prochain rendez-vous n'est pas reporté, je devrais pouvoir me réjouir bientôt d'avoir tous les trous de mes chicots bouchés. Ici, en ce qui concerne les caries, les soins sont privilégiés plutôt que l'arrachage. Alors comme ça, il y a moquerie et raillerie à propos de la lecture difficile de ses petits camarades. Il est vrai que c'était particulièrement mal lu, mais je tiens à assumer ma part importante de responsabilité dans cette histoire. Ne relisant pas, il est possible qu'il y ait des erreurs, et surtout, en général, je ne prends pas soin de mon écriture. Là, je m'applique. Ce qui transforme la lecture en déchiffrage. J'écris souvent vite et mal, je pourrais dire comme un pied et le mauvais. D'ailleurs, le membre opposé à la main d'écriture est le pied d'appui, sûrement le meilleur outil pour écrire à celles qui soutiennent. Mes courriers étant pensés comme une communication interpersonnelle plutôt que pour être lus à la radio, sont remplis de digressions et de remarques qui mériteraient peut-être d'être omises. Il pourrait être judicieux de trier ce qui y est écrit, tri dont je laisse, bien entendu, à vos yeux extérieurs, le soin d'effectuer. Toujours est-il que le moment jovial et suscité par cette lecture, et plus spécifiquement la remarque amusante et amusée qu'il faudrait taper sur les doigts du lecteur, m'a fait réagir. Sans aucune intention de faire le rabat-joie ou des reproches, je tiens à vous partager la réflexion qui m'a traversée. Cette remarque anodine, comme un réflexe ou une habitude linguistique, liant l'idée de la punition, qui semblerait alors légitime à une mauvaise action, est apparue dans mon esprit sous le terme « culture de la punition ». L'écho de ce terme à celui de « culture du viol » permet de définir cet automatisme punitif grâce à un parallèle avec le patriarcat comme une construction sociale. Ainsi, comme toutes les constructions sociales, celle-ci, dont le but est de faire paraître la punition comme une réponse évidente et nécessaire par le biais de tous les moyens coercitifs possibles, comme par exemple l'éducation ou une représentation hégémonique, a réussi à un ancrage mental, même chez les plus ferventes de ses détractrices. J'espère sincèrement que vous ne prendrez pas ça comme une leçon de morale, car ce n'est vraiment pas le cas. Ce parallèle, je ne l'avais jamais vu auparavant, je n'y avais jamais prêté attention. Autant ça fait de nombreuses années que je n'enjoins plus les personnes qui me débectent à aller avoir des rapports sexuels avec les génitrices ou autres joyeusetés de même acabit, même pour rire avec des amis, autant je m'étais jamais posé la question quant au fait de promettre aux potes de leur taper sur les doigts. Je voulais simplement vous partager le cheminement de ma pensée. Et ce n'est que le début, désolé, mes murs sont un peu réactifs à mes réflexions, et puis vous êtes l'élément déclencheur. J'ai assez rapidement émis l'hypothèse que l'origine de ce rapprochement d'idées n'était pas étrangère au livre que j'étais en train de finir de lire. « Pour elles toutes » de Gwenola Ricordo. Je me suis fait alors la remarque qu'il n'y avait pas eu de discussion sur le concept d'abolitionnisme à l'antenne. Remarque qui peut très bien être faite, à tort, n'ayant pas le recul nécessaire sur l'émission, ayant eu accès à la radio que peu de temps avant l'été. De fil en aiguille, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir des propositions de lecture ou des retours, etc. Est-ce intéressant ? Selon moi, oui. Est-ce une bonne idée ? J'en suis moins sûr. La lecture étant une activité solitaire, je ne sais pas si elle est beaucoup pratiquée en dehors des QI et si cette idée intéresserait des gens. De plus, le temps relativement court des émissions est souvent déjà trop court pour l'amputer pour ça. Peut-être dans le journal. En écrivant cela, j'imagine déjà la scène. Si ce n'est comme ça que ça se passerait, je m'excuse de vous faire un jour le rôle qui n'est pas le vôtre. Un petit sourire en coin pour accompagner votre réponse. L'envolée, c'est votre émission, votre journal. Sous-entendu, ce que nous en faisons tout ensemble. Alors mon petit bonhomme, si tu veux faire quelque chose, fais ça existe, do it yourself. Et voilà comment je me retrouve piégé à mon propre jeu en toute autonomie. Bon, je nie aucunement la volonté de tenir une chronique littéraire, je m'en voyais plutôt en profiter, mais il serait plutôt malvenu de ma part d'être demandeur de quelque chose sans y mettre la main à la patte. Bien que n'ayant pas l'habitude de cet exercice, et je ne sais trop comment je vais m'y prendre, je vais donc vous joindre une brève présentation de ce livre qui m'a amené cette réflexion, un peu comme on pose un bouquin sur une étagère vide. On verra par la suite si d'autres personnes y voient un intérêt et posent les leurs, ou si ça prend juste de la place pour rien. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire si je suis hors propos. Sur ce, je vous laisse, je vais poser mon cul sur le lit et me dévorer un autre bouquin, plus léger, goûter au sable épicé dans les dunes, demain je m'attelle à la présentation. Au plaisir de vous lire et de vous avoir dans les oreilles, merci pour le soutien que vous nous apportez, salutations et respect, Flo, Post-scriptum, malgré la petite appréhension, mon régime végétarien est resté respecté. Youhou!
Bah, comme d'hab, hein, merci déjà pour tes lettres et tout ça. On s'est permis, déjà, merci de prendre ma défense que j'avais mal lu.
Je ne mérite pas. Je comprends pas.
Mais
mérite pas.
En vrai, c'était. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on va rebondir un peu et tout ça avant de lire la note de lecture que tu nous as faite sur Pour elle toute. Juste pour rappel, on en avait discuté de ce bouquin dans une émission. Enfin, c'était une discussion qu'il y avait eu dans une librairie et qu'on avait retransmis à l'émission. Ça doit être en avril ou mai dernier. Voilà, vous pourrez retrouver facilement sur le site les gens qui ont accès à internet. Voilà, mais on sait malheureusement que c'est pas ton cas. Voilà. Différents trucs, bah ouais, en fait, tu vois, on est comme tout le monde. Voilà, et donc en fait, bah oui, bien sûr que la société elle s'impose à nous et on a beau essayer de se déconstruire au maximum, mais bah il y a certains réflexes qui reviennent. Voilà, et entre nous en tout cas, c'est toujours plus amical qu'autre chose, mais voilà, c'est toujours bien de aussi rester attentif de l'extérieur. Voilà, donc on prend note et voilà, et merci de m'avoir donné des billes pour me défendre face à Sylvia parce que c'est dur des fois.
Oh là là, c'est pas vrai, je suis gentille.
T'es très gentille.
Oui,
mais voilà, l'autre truc c'est que moi je trouve ça super cool, voilà, des fiches de lecture en fait on en a déjà eu quelques-unes à l'époque. Je me souviens de Alain Cangina qui était venu nous présenter un bouquin, voilà, et il avait fait beaucoup plus long que toi, donc parfois c'était un peu plus ennuyeux, mais c'était quand même vraiment très important de faire ce genre de truc. Et nous souvent aussi on n'a pas le temps, voilà, de prendre le temps de lire ces trucs, prendre le temps d'en faire une lecture un peu critique et tout ça. Et donc si toi à l'intérieur c'est un truc qui te fait plaisir et tout. Et pour rappel, on a reçu les mémoires de Bergman, voilà, qui a été publié par L'Échappée. Les copains des éditions L'Échappée nous ont filé 5 exemplaires à envoyer à l'intérieur. C'est un sacré pavé. Et donc, je pense qu'on t'en enverra. Enfin, voilà, soit dis-nous, mais je pense qu'on peut te l'envoyer direct. Je pense que tu seras content de recevoir.
Je pense que tu seras le premier sur la liste.
Ouais. Voilà. L'autre truc, bah ouais, sur la question de l'abolitionnisme, c'est une question qui revient assez régulièrement à cette antenne. Et nous le terme d'abolitionnisme, il nous plaît pas des masses. Voilà, je pense qu'il y a des pages dans le bouquin d'Affet qu'on pourra aussi t'envoyer, qui est assez clair sur ce que nous, c'est plutôt une position anticarcérale qui se produit des rapports qu'on produit avec l'intérieur. Voilà, et que c'est un point de vue qu'on a sur la société anticarcérale. Donc il s'arrête pas en fait aux 4 murs d'enfermement, et c'est un enfermement plus global quoi. Il disait que bah oui, en fait t'es aussi enfermé quand t'es sur un fauteuil roulant, voilà. Et donc ce point de vue anticarcéral, il se construit à partir de relations et il permet de lire la société, voilà. Alors que des fois la question, enfin quand on emploie le terme abolitionniste, c'est souvent une position souvent plus intellectuelle et en tout cas souvent morale quoi. C'est les 4 murs qui gênent, voilà. Et nous c'est pas de la même manière qu'on
l'enfermement peut pas, elle peut être physique mais psychique aussi. Ouais, tu sais très bien de quoi je parle en vrai, mais ouais, comme disait Fed, l'enfermement ça peut être aussi tu t'arraches de d'un endroit où tu es enfermé avec un espèce de gourou qui essaye de te détruire psychologiquement, un enfant qui est battu par ses parents et qui fugue indirectement, il s'évade de son environnement dangereux. Et voilà, en fait c'est plus ce regard là sur la société que nous on a en vrai.
Ouais, moi j'ai l'impression que l'abolitionnisme en fait c'est un truc théorique. Que après on pourrait porter ou quoi, mais que nous la question c'est pas comme ça qu'on se la pose, on se la pose de manière concrète, c'est ce que tu dis avec les liens qu'on a avec des prisonniers et des prisonnières qui du coup nous permettent de dire concrètement pourquoi on est contre toutes les manières d'enfermer, que ce soit à l'intérieur ou dehors quoi. Et voilà, et d'ailleurs on est, enfin désolé parce que pour nous c'est hyper dur de faire le tri sur tes lettres qu'on reçoit, parce que c'est bien écrit et que tout a l'air de se suivre quoi.
Tu n'as pas envie surtout de faire ce tri,
voilà. Ouais. Et du coup si ça te va, bah comme je te proposais dans ma dernière lettre, après elle risque de mettre du temps à arriver, si il y a des fois où t'as pas envie qu'on lise certains passages, et bah tu les adresses plus spécifiquement à moi, ou en tout cas tu le notes, et quand il y a écrit salut à vous, nous on considère que ça peut être lu. Et donc en dehors de si on doit raccourcir parce qu'il y a trop de lettres dans l'émission, bah en tout cas on essaye de lire l'intégralité quoi.
Puis là, particulièrement pour celle-là, ça nous semblait important, en fait, voilà, parce que t'expliques pourquoi tu nous fais cette note de lecture, et donc ça semblait important qu'il y ait tout. Et par rapport à ça aussi, on est content de voir qu'il y a des nouvelles qui sont pas trop mauvaises par rapport à tes dents et ton régime alimentaire. C'est plutôt des bonnes nouvelles, parce qu'on sait à quel point t'as dû te battre pour réussir à obtenir ces trucs-là. T'en avais parlé dans tes autres lettres.
Et aussi, ça nous fait surtout plaisir, parce qu'on a vraiment l'impression de servir à quelque chose et de pas exister pour rien, et de pouvoir transpirer sur ces douleurs qu'il y a à l'intérieur et pouvoir les dire à l'antenne. Et
ces combats aussi.
Et ces combats qu'on mène.
Et on a bien reçu ton acte. Enfin, la scène que tu as écrite, on la lira dans 2 semaines au prochain direct. Et du coup, là, on va lire la petite note de lecture que tu as faite.
Alors, c'est « Pour elles toutes » de Gwenola Ricordo, publié chez Lux Editeur. Ce livre, qui se veut à l'intersection du féminisme et de l'abolitionnisme pénal, a, selon moi, le mérite de prendre en compte d'autres angles d'approche, tels les origines sociales et ethniques, le dedans et le dehors, les mouvements et luttes queer et LGBTQ, les privilèges, la société, etc. Ce qui lui offre un carrefour assez large, enrichi par le fait que l'autrice navigue entre France, États-Unis et Canada. Un panel plutôt complet de sujets y abordés, bien classés dans différents chapitres, clairement définis. Abolitionnisme pénal, victimisation des femmes et son traitement pénal, femmes judiciarisées, femmes aux portes de prison, abolitionnisme pénal et féminisme, s'émanciper du système pénal et construire l'autonomie. Les sujets y sont traités avec un équilibre savamment dosé. Nous ne sommes ni dans un survol superficiel, ni dans une analyse longue, ultra poussée, qui complexifierait la lecture. Pour une étude plus approfondie, une liste de références nous est proposée. L'autrice nous initie ici aux arguments principaux de ces luttes, tout en offrant ses critiques constructives à leur sujet. Bien qu'étant claire dans ses idées et opposée au recours pénal, elle est consciente que toutes les personnes n'ont pas accès aux mêmes options pour se défendre et ne les critique donc pas pour leur choix, quand il a semblé nécessaire. Sans se limiter à la dénonciation de l'inefficacité du mécanisme pénal, elle y est exposée une brève description d'alternatives. La justice réparatrice, la justice restaurative et plus encore la justice transformative. J'ai personnellement vu ce livre comme une introduction bienvenue à l'abolitionnisme pénal, avec ses pistes de réflexion très importantes sur les options autres. Pour d'autres peut-être, ce livre serait une introduction au principe féministe, point d'interrogation. Toujours est-il que l'on peut y retrouver une première marche, une base d'appui vers une réflexion et ou un engagement personnel et ou collectif.
Et écris-nous si ça te fait plaisir, cette note, je peux la transmettre à Gwenola, si réellement ça peut te faire plaisir. Donc, je ne le ferai pas sans ton accord.
Voilà. Bah, après, moi, je ne sais pas quoi dire. Je trouve que c'est bien résumé, bouquin. N'hésite pas à donner ton avis aussi. Moi je ne sais pas faire de chronique littéraire, hein, donc je ne vais pas non plus trop parler, mais n'hésite pas à donner ton avis, parce que, en tout cas, c'est un bon résumé et j'ai l'impression qu'il manque un peu ça, quoi.
Ouais, et puis ouais, peut-être rajouter que c'est quand même très très universitaire. Il le dit au début, hein. Tu le dis au début même. Mais c'est juste, c'est quand même, il y a, comme tu le dis, en fait, ça survole pas mal de choses, beaucoup de choses. C'est un peu. Enfin, moi, je trouve que des fois, c'est un peu dur dans ce bouquin de rentrer dans le concret. Mais c'est vrai que moi j'ai pas pris le temps d'aller lire toutes les citations qu'elle faisait et tout, parce qu'il y a un gros travail derrière et tout. Peut-être le truc un peu, ça parle quand même assez peu de la France. C'est beaucoup.
Ah, j'ai plus là. Hein,
mais aussi c'est hyper intéressant, parce qu'en fait t'en apprends vachement.
Par contre,
sur.
Ce qu'il faut dire, c'est que moi quand j'étais incarcérée, elle venait voir des prisonnières au parloir. Donc c'est quelqu'un qui connaît, elle connaît bien le fait d'aller au parloir, et c'est quelqu'un qui a fait des années de parloir et de pas forcément avec des proches, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, c'est quelqu'un qui était vraiment investi dans la cause carcérale, anticarcérale.
Elle le dit assez bien au début, que elle a un parcours de vie par rapport à ça et tout. En tout cas, à mon sens, ça reste plus un bouquin universitaire qu'un bouquin de lutte. Il a son sens, et aussi il permet, comme tu le dis aussi bien dans ta lettre, c'est qu'en fait ça permet aussi de sensibiliser entre guillemets d'autres personnes qui ont besoin parfois d'avoir un expert ou une expert ou autre, ou en tout cas ça va attirer d'autres personnes et tout, et ça permet à sensibiliser un certain nombre de voilà, mais c'est juste pour faire une petite critique, mais c'est important que ce type de bouquins existe, et ils existent et qu'ils existent ici en France, voilà, quand c'est des débats qui sont posés depuis un petit moment et tout.
Ouais, et du coup, nous, en fait, ça fait quelques temps qu'on y réfléchit, mais on aimerait bien essayer de faire à un moment une émission sur à la fois les violences sexistes et comment réagir, mais aussi la répression et l'utilisation de la répression des violences sexistes pour taper plus soit les étrangers et étrangères, soit les plus pauvres, quoi, en fait. Comment à chaque fois qu'il y a un nouvel outil pénal, et bah, ça tape toujours les mêmes. Et du coup, on va essayer de faire une émission comme ça avec notamment les gens d'Abalekra, parce qu'il y a eu une brochure qui est sortie là-dessus, mais aussi avec d'autres copines ou copains qui auraient participé à d'autres brochures, participé à d'autres expériences. Et on va essayer de faire ça dans les prochains mois. Et du coup, voilà, bah, que tu sois. On espère que tu seras sorti d'ici là, mais grave, en tout cas.
Mais ce sera l'occasion, en tout cas, de relire ta note si t'es pas dehors. Bon, en tout cas, on te passe vraiment plein de force à l'intérieur. Voilà, on sait qu'il y a eu deux, trois petites étapes ces derniers temps là qui font chier, mais donc plein de force et à très vite. Et puis on lira ta prochaine lettre dans deux semaines.
Et donc là, sans transition musicale, en tout cas, on va essayer de continuer un peu l'émission pour pouvoir essayer de tout dire aujourd'hui, quoi. On voulait revenir... on voulait revenir sur 2012. En fait... Là, il n'y a pas longtemps, dans la presse, on a vu l'histoire du procès d'un médecin.
Mais en fait, pour construire nos émissions, souvent, on regarde des brochures sur Internet, on regarde surtout l'actualité du moment, ce qui se passe, et en se partageant les infos, on tombe sur un article de presse qui parle d'un médecin qui a été jugé pour un manque de soins. Alors eux, ils appellent ça un manque de soins, hein, mais moi j'appelle ça autrement. Et pour une femme qui serait décédée à Fleury-Mérogis. Alors bien évidemment, on a tous et toutes percuté dans l'envolée que c'était de Gourdana qui parlait. Gourdana qui est morte le 1er novembre 2012, dans la nuit du 1er novembre 2012. Alors, on va commencer par le début, parce que sur cet article, on voit un médecin qui est incriminé, voilà. Mais il manque plein de gens, en fait. Dans ce procès, il a dû manquer plein de gens, plein de monde. C'est pas qu'une simple prisonnière qui est morte d'un manque de soins. Il y a eu plein de d'histoires autour de ça. Il y a eu plein de réprimandes. Et donc, je vais m'étaler plus concrètement. Alors, dans la journée, Gourdana se plaint de douleurs à la poitrine, au thorax et au dos. Mais c'est pas des plaintes, c'est vraiment des douleurs. Voilà, c'est vraiment des douleurs. Elle est très fatiguée, elle est pas bien. Et donc, on décide de... Quand tu es en promenade, tu appelles la surveillante de grade, la surveillante de garde qui garde la cour de promenade. Enfin, tu tapes à la porte et tout. On dit qu'elle est malade, que c'est grave, que dans son dossier médical, il est connu qu'elle a des problèmes de cœur et que ce serait bien qu'elle aille voir le docteur parce que ça, c'est une alerte d'une mort cardiaque, quoi, voilà, tout simplement. On referme la porte, ça retape, ça insiste, et les prisonnières insistent fortement et ils décident de refaire monter Gourdana de promenade et la mettre en cellule avec sa cousine. Il faut savoir que Gourdana était dans la même cellule que sa cousine à l'époque et que toute la journée elle a été enfermée, que personne n'a pris le soin de de venir l'aider, alors que toutes les prisonnières, bien évidemment, comme on est assez solidaires dans des moments, même si on ne s'aime pas, on n'a pas d'animosité en tôle, on est quand même solidaires et que quand il y a une d'entre nous qui est malade, on reste quand même humaine et tout le monde, c'est le problème de tout le monde. Voilà. Et donc, toutes les filles commencent à se rebeller et donc décident d'aller voir, on va l'appeler Monsieur Piquet, mais ce n'est pas très loin, il y a juste une lettre à changer. Et donc, un gradé de l'époque. Et il explique que c'est certainement une crise d'angoisse et que s'il lui arrive quoi que ce soit, il en prendrait l'entière responsabilité. Apparemment, ce monsieur n'était pas au procès, puisqu'il se disait prendre l'entière responsabilité. Apparemment, monsieur n'a pas daigné y être ou être impliqué. Ensuite, comme on ne peut pas sortir de cellule, ça frappe aux portes, forcément. Ça frappe aux portes très tard et très fort. Ça prend les balayettes, ça tape avec les balayettes, ça met des coups de pied, voilà. Ça crie aux fenêtres, ça, voilà, donc ça fait comprendre aux surveillants de grade et aux gradés de garde qu'il y a un problème et qu'il faut agir. Donc Gourdana, alors faut savoir qu'à Fleury-Mérogis, en France, il n'y a pas beaucoup de prisons où il y a un médecin de garde. Mais Fleury-Mérogis, il y en a un. Voilà. Et donc, c'est ce médecin de garde qui a incriminé. Il se décharge du fait que... Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on en avait déjà entendu parler, qu'il s'occupait des mecs, de deux hommes qui étaient malades à cet endroit-là. Et donc, il a dénié que Gourdana, ce n'était pas très grave. Et il l'a diagnostiqué au téléphone en disant que c'était effectivement une crise d'angoisse. Le souci, c'est que... Comme je l'expliquais au départ, elle est connue dans son dossier médical pour avoir des problèmes cardiaques. Cela veut dire qu'il n'a pas pris le soin d'ouvrir son dossier médical. Et que connaissant Fleury, alors il faut savoir que quand on arrive à Fleury, c'est un immense site. Et que même nous, quand on est déféré du palais de justice à cette prison, pour aller au bâtiment des femmes, c'est un car qui nous amène. Donc c'est tout un fonctionnement pour que ce docteur se déplace. Jusqu'à là-bas, tu vois. Et à un moment, Gourdana est fatiguée et elle décide de dire aux filles d'arrêter d'appeler les docteurs, de taper aux portes parce que voilà, elle est fatiguée, donc ça finit de ça s'arrête et le matin, elle est retrouvée morte dans la cellule de Jessica et la sienne d'ailleurs aux ouvertures des portes à 7h du matin. Quand on entend une surveillante, on peut dire son surnom, c'était Spock à l'époque. Qui disait aux femmes d'arrêter de taper aux portes, c'est-à-dire qu'elle est venue dans les couloirs, et pendant que ça tapait aux portes en criant au désespoir, la seule chose qu'elle a su dire, c'était arrêter de crier, c'est la fête des morts. Voilà. Elle est où cette femme? Elle est où cette surveillante? Elle n'est pas passée au procès? Suite à ça, il y a eu des gros mouvements à l'intérieur, dont des refus de plateau de repas. Donc ça peut être bête, mais c'est très significatif, un refus de plateau de repas. C'est que ça veut dire que tu te mets en grève de la faim et qu'au bout de 3 refus de plateau de repas, le procureur de la République est obligé d'être au courant. Voilà. Quand la presse a été prévenue, pour l'avoir eu à ce moment-là d'ailleurs, l'administration pénitentiaire se défendait en disant qu'il n'y avait que 3 personnes qui refusaient le plateau. C'était bien évidemment totalement faux. Il y avait plus de 150 femmes qui le refusaient, prévenues comme condamnées. Suite à ça, il y a des condamnés qui sont... il y a eu des refus de remontée de promenade avec des interventions d'Iris. Il y a eu la partie condamnée et la partie prévenue. Dans la partie prévenue, ils se sont mis dans la cour... dans la cour en se tenant les mains en ligne. C'est assez symbolique parce que c'est de la façon que les iris viennent en cours de promenade pour cerner les prisonniers ou prisonnières. Et donc, elles ont décidé de se tenir, d'être en ligne et de prendre un briquet avec des draps parce que les draps ont été jetés par les fenêtres. Parce qu'il n'y a pas de barreaux chez les femmes à Fleury, donc c'est facile pour nous de jeter des trucs. Elles ont jeté des draps par les fenêtres et elles sont entourées de draps avec un briquet en disant que si les iris s'approchaient, elles s'immoleraient. Voilà. Ça, c'était côté prévenu. Côté condamné, elles ont fait un tas de ces draps et elles ont mis le feu au milieu de la cour, ce qui, pour l'administration pénitentiaire, était très grave. Pour nous, c'était un peu... Suite à ça, il y a eu 54 transferts disciplinaires. Mais ils ont tendance à le dire le plus souvent possible que Fleury, c'est une prison, la prison la plus grande de France. Effectivement, il y avait 400 femmes à l'époque. Il y a 400 témoins de cet abattoir. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un manque de soins, puisque c'est un refus d'être soigné, tu vois. Et du coup, on parle pas de prisonnières qui ont été déférées ou qui ont été entendues suite à la mort de Gournana, et je trouve ça très très triste. Il faut savoir que dans les journaux, ils banalisent la chose, mais Gournana avait 7 enfants. Elle était en prison pour un petit délit. Son mari était incarcéré à Fresnes à l'époque. Il a appris la mort de sa femme dans des circonstances horribles. Un an après la mort de Gournana, quand on a contacté l'avocate quand on a contacté son avocate, elle était toujours pas autopsie. Il n'y avait toujours pas eu d'autopsie. Donc s'il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas d'enterrement. Donc c'est quand même je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui, en espérant que parce qu'en fait c'est le procureur a fait son réquisitoire et propose 8 mois de prison, 8 mois de prison avec sursis et 2000 euros. Et ce médecin se défend en disant qu'il était submergé de travail et que la surveillante du moment a dit que c'était pas la peine de venir, qu'elle allait mieux. Et
Les médecins, cette gradée.
Ouais, elle s'est autoproclamée médecin avec ses réflexions de merde. Donc voilà, c'était.
Et en même temps, quand tu vois le médecin. En vrai, quand tu vois le médecin, bah, tu te dis que bon, c'est pas qu'une question de diplôme, quoi.
Ouais. Bah, si t'es fatigué, mets-toi en repos, quoi. Voilà.
Ouais, mais en vrai, il y a quand même un vrai truc, on est revenu là-dessus. Dans
et puis, qui disent qu'il est de garde 24 heures, on a lu que ça quand même chez les femmes l'après-midi, et un médecin de garde, il travaille la nuit. L'après-midi, on a lu que ça, tu vois. Donc, cette femme-là, elle aurait dû aller à Luxa l'après-midi, en vrai. Ce médecin de garde, on s'en fout de lui au moment de ça. Et puis, si c'est le même. Il y avait une lettre qui était sortie à l'époque de Fleury Mérogis où justement il soignait les femmes comme de la merde et qui avait été lue à l'antenne de l'Envolée. Si c'est le même, et je sais de quoi je parle puisqu'on avait été amené dans le bureau du directeur suite à cette lettre. Voilà. C'est un peu de musique, non?
Ouais, on va mettre un petit peu de musique.
Chapeau de paille avec le pitou. Ton regard il m'a rendu fou. Je prends le Vespa, je me taille à Salou. 13-0-15, la photo c'est nous. Mon pote il est sourisine. Je fais une petite tête dans la petite piscine. Ouais, le zinc, qu'est-ce qu'elle a la zine. Et c'est pas Gambino, c'est déjà l'usine. Vas-y, un roule un pète, deux pètes, trois pètes, cette année ça pète. Qu'est-ce qu'elle est coquette, coquette. Son boule pique un lance roquette. Je fais un drogue et puis je rigole. En plus, il me lance la matraque. En Vespa, je revis. Je m'isole et me trouve mignon. Sa copine, je l'attaque. L'avocate, PGP ça y est même plus je capte. Tu m'aimes pas, je me fais seul un coup de batte. Je suis des Z, ça y est maintenant tu capes. Gambineux c'est magique, demande à Malik. Tu me jalouse un boost, ça poutre une moutarlique. 5 du mat, ça démarre au cri. Côté passager, je l'amène au pic. Je ramène tout le check,
tout le réseau.
Tout le monde crie
au réseau.
Rallye civile dans le rétro. Plus haut de pété,
c'est le vaisseau.
Elle sent bon la fraise. Je me le stun à l'aise. Demande à Oiseau, tout commence au 13. Je me languis la fusée, mon premier showcase. Case.
Ça crie à Win,
mon collègue
collègue m'appelle, me dit j'ai pas de mandat. Il me reste qu'un prochain poteau sous le matelas. J'ai pas le moral, la poteau, je suis pas là. Il dit mon frérot, faut ralasse l'avocat. Je rentre dans la boîte et je suis qui est. Va dire au patron, envoie les billets. Pochon bleu, vert, jaune, violet. Envoie la bouteille, je vais la violer. Si tu montes demain, tu pètes tout. T'es le sang, t'es la veine, c'est tout. Tu me jalouses, moi je suis où, loulou. Pour percer, tu fais le toutou. Avec elle, ça glisse.
Alice.
J'ai 31 bis bis, j'mets une paire d'Asics.
Alice.
J'ai une tête cramée, envoie les râles.
Ça crie à Win, fais la ra. Ralarde pas les civils, oh là là, oh là là. J'm'emballe avec de ta nana, 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 nana. Au charbon Punta Cana, nana, nana, nana. Au check, ça crie à Win, fais la ra.
Vous êtes bien de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Et pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Et pour le nouveau numéro. Alors surtout, n'appelez plus sur l'ancien numéro de portable de L'Envolée. Le nouveau numéro, c'est le 07 53 10 31 95. Le 07 53 10 31 95.
Je le connais presque par cœur.
Je le connais par cœur.
Ce sera bien pour une fois.
Bah, tu vois, Sylvia, tu vois pourquoi je ne l'ai pas pris l'autre. Bah voilà, parce que je savais qu'on allait changer.
La semaine dernière, on a eu des poteaux Damien et des mutilés pour l'exemple, et en particulier Mel qui nous a raconté comment elle était entrée dans le mouvement des Gilets jaunes et comment elle s'était fait mutilée, enfin pas mutilée, mais en tout cas pris un énorme coup qui lui a tassé ses vertèbres, voilà, et qui fait que bah maintenant elle a plein de difficultés, voilà, et donc bah on en parlait la semaine dernière parce que le procès avait lieu cette semaine et certains d'entre nous y étions, voilà, et on voulait parler un peu de ce procès, voilà, je sais pas, on va peut-être commencer par décrire un peu l'ambiance qu'il y avait autour de ce procès. Donc, Mel n'avait pas appelé à du soutien, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient là parce que Mel, elle est là avec nous. Enfin voilà, elle participe à soutenir plein de gens et tout autant qu'elle peut avec l'énergie qu'elle a et son cœur. Et donc tout début, ils avaient commencé par nous foutre dans une toute petite salle. Voilà, vraiment une toute petite salle. Et ce qu'on a appris après, en fait, c'est que tous les mois, il y a une salle qui est réservée pour juger les keufs. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Voilà. Mais donc, voilà. Et la première salle qu'ils prévoient pour ce truc-là, tu vois, parce qu'ils ne savaient pas, en fait, vu que Mel, elle n'avait pas fait d'appel ni quoi que ce soit, ils prennent la salle la plus petite du tribunal pour juger les keufs, quoi. Les seules places qui sont plus petites, c'est pour les GLD, des centres de rétention. Voilà, c'est pour vous dire le niveau de à quel point ils
pour
veulent.
Pour y être passé, c'est pas très grand, effectivement.
Et ils veulent vraiment le cacher, le truc. Donc là, quand même, quand ils ont vu le monde qu'il y avait, ils ont été obligés de se foutre une autre salle un peu plus grande. Il y avait des salles qui étaient 15 fois plus grandes où il n'y avait personne. Voilà, c'est con, parce que vu qu'il y a des plans d'évacuation incendie, on voit comment sont les salles sur les plans qui sont partout. Et bien sûr, ce n'est pas du tout cette salle qu'ils ont. Voilà. Et donc, ça a été un rapport de force insupportable pendant tout le truc, où on a été pas mal d'entre nous à ne pas pouvoir aller soutenir notre pote qui passait devant un gradé qu'il avait agressé. Quoi. Voilà. Et donc bah moi je fais partie des gens qui sont restés pas mal extérieurs, voilà, à s'énerver contre les keufs qui nous laissaient pas rentrer, qui diminuaient la jauge petit à petit, qui nous disaient c'est bon, vous avez le droit de rentrer dès qu'il y a une personne qui sort. Il y avait une personne qui sortait, on n'avait plus le droit d'y retourner. Mais donc tout ce truc pour vouloir cacher ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme d'habitude. Et à l'intérieur, bah peut-être Christian, tu veux nous raconter un peu plus, voilà, donc pour rappeler quels étaient les faits, voilà. C'est
T'as présenté Christian déjà ?
Ouais, mais je sais pas comment tu veux te présenter.
Je vais me présenter. Voilà. Je suis membre de l'Assemblée des blessés, mais là je viens plus parler en tant que soutien du réseau d'entraide Vérité et Justice, auquel on fait partie. Un réseau qui dont l'objectif est de sortir de l'isolement que l'État, quand on s'attaque à l'État, qu'ont subi des familles aussi bien qui subissent des violences policières que carcérales, car parmi dans le réseau, il y a, c'est pour ça que nous sommes en lien avec l'envolée, c'est qu'il y a aussi des familles dont des proches ont été tués en prison. Et dans ce réseau, il y a aussi donc des blessés, dont les mutilés pour l'exemple, comme Mélanie. Et donc en fait, on appelle toujours à soutenir, en cas de procès, on appelle vraiment à soutenir. Ou aussi bien, on appellera, en fait, tout à l'heure vous avez fait l'appel à La Rochelle, on a aussi fait un appel pour qu'on essaie d'être présent à La Rochelle.
Donc il y avait quand même beaucoup de soutien, il y avait beaucoup de monde dans ce procès en soutien.
Oui, il y avait du monde. C'était étonnant parce qu'on n'avait pas fait d'appel justement pour éviter d'avoir des personnes, on va dire...
Malveillantes
pas vraiment malveillantes, mais on va dire... auxquelles on n'avait pas les mêmes idées. Nous n'avons pas du tout les mêmes idées. Puis parfois toxiques aussi. Donc c'est pour ça, mais en fait on a été surpris, il y a eu des gilets jaunes, ceux de Saint-Denis, du 94, en fait il y avait différents collectifs qui étaient là, et ce qui nous a agréablement surpris, parce qu'en fait, en regardant les personnes dont, vraiment complètement éclectiques, on s'est aperçu que on représentait quand même énormément de monde par rapport à ce que chaque collectif représentait en termes de nombre. Et donc à l'intérieur, oui, il y avait évidemment, il y a toujours ce fameux combat d'essayer d'avoir la parité entre les soutiens des victimes et évidemment la corde de flics qui essaie de... Et le plus surprenant, c'est que ce policier s'est présenté en uniforme avec ses médailles. Donc j'imagine que c'était pour faire impression auprès des juges. Il est connu, en fait, on peut dire son nom, hein, il s'appelle Caffin, mais il a surtout un surnom qui s'appelle GoCRS. Il a plusieurs, c'est pas la seule affaire en fait auquel il va devoir répondre, il a d'autres affaires en cours. Pour ce qui est de Mélanie qui a été gravement atteinte au-dessus de la... Alors, il faut bien comprendre, c'est à la nuque, parce que souvent, ouais, pendant le procès, on parlait frappée à l'épaule. Non, elle n'a pas été frappée à l'épaule, elle a été frappée au-dessus des épaules. Et au-dessus des épaules, la nuque, ça, c'est la tête. Et donc, il y a toujours eu ce petit jeu subtil auquel les flics souvent font preuve vraiment de, on va dire, d'intelligence, puisque les juges acquiescent à chaque fois donc sur la légitimité du coup.
Peut-être juste pour rappeler, en fait, il n'avait pas le droit de se pointer en uniforme. Et donc il a menacé de partir et d'être simplement représenté par son avocat. Et donc les gens ont été obligés, pour pouvoir lui poser des questions.
Qui c'est les gens,
président, les avocats et tout ça, d'accepter. Et donc Mélanie, c'est...
C'est-à-dire de se plier...
À ses désirats.
Mais je pense... prouve bien que c'est une pourriture dans toute sa splendeur.
Qu'en fait, en réalité, là, par exemple, le tribunal, ils auraient eu le droit de dire que c'est un outrage à la cour, par exemple, parce que ça considère que tu considères que t'es en train de montrer ta supériorité à travers tes vêtements.
Il veut montrer qu'il est maître de quelque
chose. Personne, si Mélanie s'était ramenée avec un t-shirt mutilé pour l'exemple,
il l'aurait
fait chier. Voilà. Mais sauf que là,
est arrivé plusieurs fois de venir avec des t-shirts et nous a demandé de les enlever.
Et donc là, ils ont vraiment, ils lui ont demandé de l'enlever, mais il a dit non, je peux pas l'enlever, et sinon je me casse.
C'est inadmissible, ce petit enfant capricieux à deux balles.
Il a été présent. Et après derrière, enfin moi j'étais là vraiment qu'à certains moments et tout ça, mais on a vu comment, et c'est la même chose pour Oumu, on va en reparler tout à l'heure, et puis là aussi ce dont on parlait pour Gorodana, c'est comment se met en place la justice justificatrice en fait de certains actes de violence. C'est-à-dire que là Nous, on est souvent dans le box côté
victime.
Enfin, on est rarement dans le box côté victime ou partie civile qui portons plainte. Voilà. D'habitude, on va plutôt soutenir des poteaux qui se font attaquer par l'État. Voilà. Et là, c'est des poteaux qui attaquent et qui utilisent la justice pénale. Voilà. Mais donc, on a l'habitude de comment se comportent des juges avec des personnes qui sont mises en accusation. Et là, c'était de la folie. Enfin, il y a une question. On voit la vidéo qui est complètement hallucinante où GoCRS se déplace pour. Enfin, vraiment, il se déporte, quoi, vraiment pour la viser. Voilà, il la fracasse sur la nuque. Et donc, elle s'effondre tout de suite. Et c'est vrai que directement, il y a eu toute la salle qui a eu une petite réaction et tout le bordel. Une des juges était là, elle n'a pas compris, il a fallu remonter la vidéo, parce que c'est tellement violent et rapide d'un coup d'un seul. Parce qu'il faut savoir que Mélanie était de dos, et elle levait les bras au ciel. Enfin, vraiment, elle était en train de. Donc, il y avait une charge. Ouais, donc, voilà. Lui, il ne faisait pas partie de la charge, il était devant. Voilà, il partait devant. Et voilà. Et donc, il la fracasse, voilà, la juge, quand même, elle ne comprend pas trop, tu vois, elle se dit, bon, vu que dans un tribunal, normalement, on est neutre, il va falloir poser la question. Mais putain, la question qu'elle lui a posée, bon, alors, je comprends, monsieur, que la vidéo ne donne pas une représentation de ce que vous avez pu ressentir à l'époque et tout. Elle lui dit, bah voilà, vous vous déportez, vous assénez un con hyper violent, voilà, mais elle lui donne, dedans, elle enrobe tout, en lui donnant tous les justificatifs qu'il a donnés quand il va répondre. Quoi.
Elle lui donne la réponse en même temps de la question. Ouais.
Tous les procès en fait, que subissent les policiers, c'est le même
processus.
C'est le même processus, c'est-à-dire que le juge ou les assesseurs en fait, posent des questions qui vont diriger justement sur la justification du geste. Le lancer de pavé du fameux policier, on essaie de lui faire comprendre que c'était pas bien, fallait pas le faire, alors que son avocat essayait d'intégrer le lancer de pavé dans l'arsenal du maintien de l'ordre. Et les juges essayaient de revenir sans cesse sur c'était un moment d'égarement. Donc c'est un peu les juges en fait sont complètement complices à chaque fois de là c'était le ressenti et d'ailleurs c'est fou, c'est-à-dire que dans un tribunal, on juge des faits, et à chaque fois, pour les policiers, c'est le ressenti qu'ils ont eu. Là, c'est « j'avais l'impression que je ne savais pas que c'était une femme ». S'il l'avait su, qu'aurait-il fait ? Enfin, il y a des questions comme ça qu'on pose pas... Enfin, on lui a posé la question, mais qu'aurait-il fait réellement ? Et donc, c'est toutes ces justifications qui amènent, évidemment, inévitablement à une relaxe.
Et le procureur qui requiert une relaxe, voilà quoi. Et tout est construit en fait aussi parce que ils ont un certain nombre de règles à passer quoi. Enfin voilà. Donc enfin sur le LBD c'est des règles qu'on connaît. Vous n'avez pas le droit de tirer à moins de 30%. Enfin voilà. Et donc là ça donne des billes un peu juridiquement pour pouvoir aller attaquer ça. Voilà. Là sur le bâton. En fait, alors que, enfin, moi j'y ai repensé pendant ce procès, parce que cet été je lisais un bouquin sur Sharon, le bâton il tue, et il a tué en France. Enfin, en fait, on dit que c'est une arme qui est non létale, voilà, donc ça fait que, donc ils appellent ça le bâton souple, voilà. Mais ce bâton souple il a tué 8 personnes à Sharon. Voilà, mais on le considère comme étant une arme non létale. Enfin, je veux dire, et c'était il y a moins de 5 ans, enfin, c'était il y a moins de 60 ans, ça. Et donc, il n'y a aucun texte réglementaire qui dit comment tu vas utiliser ton bâton. Et donc, après, derrière, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. De toute façon, tu es toujours dans la règle. Et eux, ils ont toujours ce truc de la violence légitime. Et le juge ne fait que valider les lois qu'ils ont faites pour protéger les prisonniers. Pour protéger les prisonniers, ça va pas la tête. Pour protéger les keufs, les gendarmes et les hommes en bleu. Et ça a été une démonstration hallucinante durant ce procès. Mais je veux dire, c'est le cas à chaque fois, comme tu le dis, Christian. Mais c'était...
Et puis on humilie la victime. Ça a été horrible. Et même l'avocat du flic, c'était clair, c'était... Mélanie, c'était elle. C'était « Ah, mais pas elle !» C'était pas madame, c'était
mais
pas...
Il n'y avait même pas le prénom Enviki, mais...
Elle. Oh là là. C'était elle, impersonnelle. Et on sentait bien qu'il y avait...
Il l'appelait l'individu.
Oui, il y a eu un individu.
L'individu. Comme que, parce que, voilà, c'était pas une femme, c'était pas, voilà, parce que, donc, en plus, il y a plein de... tout le truc patriarcal de une femme voilà c'est faible et tout ça et il l'appelait l'individu tout le temps quoi alors que Mélanie était présente en face d'eux elle leur tenait face quoi
ouais parce que moi j'ai l'impression qu'au niveau de la nuque quiconque prend un gros coup de matraque sur la nuque
bien sûr
ça se passe pas bien quoi et que ben, du coup que ce soit une meuf pas une meuf la question se pose pas là en fait
faut... la Mélanie elle peut plus faire de sport elle aimait faire du vélo elle peut plus en faire à cause des soubresauts enfin c'est la suite est difficile pour elle. C'est comme beaucoup de blessés, les séquelles sont importantes. Et on ne parle pas des séquelles psychologiques, parce que là aussi, c'est terrible. Et ce qu'elle a. Et moi, je me suis mis à sa place hier. Ça a dû être extrêmement difficile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on conseille aux familles de venir voir ces procès pour se préparer au leur. Pour montrer un peu l'inhumanité qui va leur tomber dessus, parce qu'ils ont aucune pitié. Le but, c'est de classer l'affaire, en fait. C'est très difficile pour nous de... C'est difficile pour nous de venir... d'ailleurs, il y a eu des mutilés qui sont sortis de la salle, parce que c'était très difficile.
Enfin, c'est complètement un renversement de la banalité affreuse de tous les tribunaux quand juge quelqu'un, la victime est toujours... enfin, je sais pas, là, on entend parler dans tous les médias sur le procès du 13 novembre et tout ça. Les victimes ont une place énorme. Mmh. Voilà, ça a même été critiqué dans les médias, la place trop grande qu'avaient ces victimes dans ces procès et tout ça. Là, dans les procès de violences policières, de violences pénitentiaires... la victime n'existe pas et elle est humiliée pendant... Voilà. Et donc, les gens le savent. Les gens, ils vont, et c'était le cas de Mélanie, il va avec cette force, en sachant que ça allait être dur. Et enfin, voilà, Fatou, à la fin de l'audience, elle me dit, mais en fait, heureusement que nous, on n'a pas eu de procès, en fait. Ça aurait été horrible.
Oui.
Voilà. Et donc...
Jusque dire ça. Heureusement qu'on n'a pas eu de procès, parce que sinon, on aurait su... C'est terrible. Il faut vraiment le vivre pour comprendre réellement. Quand on ressort, moi, je ressors toujours avec la rage. Plus je vais dans les procès, plus j'ai la rage, en fait, de ces flics qui viennent. Imbus, et ces avocats, en plus, qui dénigrent la victime. Et ces juges qui sont complices. Les juges mènent inévitablement à la relaxe.
Et pour rappel, juste Fatou, c'est la sœur de Lamine Jung qui s'est fait tuer par la police en 2007, si j'ai pas de conneries, dans le 20e arrondissement. Mm. Et c'est quelqu'un qui se bat énormément, quoi. Mm. Et donc, pour que quelqu'un comme Fatou dise ça, c'est qu'enfin, juste pour dire, quoi, c'est...
14 ans.
Et c'est leur objectif aussi. C'est d'écouter, voilà, pour qu'après, derrière, les gens ne portent plus plainte. Voilà.
Mm. Déjà, la plupart des gens ont peur de porter plainte contre la police, en sachant déjà. La plupart, en tout cas... beaucoup disent que s'ils portent plainte, ça servirait à rien. Beaucoup le disent, alors que bien au contraire, c'est très important de le faire. D'une part, parce que c'est toujours la même patrouille qui est incriminée. Et arrive un moment où il va falloir faire tomber des têtes, parce que faut arrêter, quoi. C'est quand même. Mais non, faut surtout pas les laisser faire sans rien dire. Faut pas les laisser gagner.
Non, c'est pour ça que le réseau il existe. Mmh. C'est justement pour essayer d'être une force, parce que même si Mélanie, elle a été humiliée, elle a senti quand même qu'il y avait une force derrière elle, qu'il y avait du monde, et ces personnes qui étaient là représentaient d'autres personnes qui n'étaient pas là, quoi. Et donc, c'est important, enfin, pour nous, le réseau, c'est pour les familles, pour les blessés, pour l'ensemble des... toutes les personnes qui sont touchées par, réellement, ce qu'on appelle les violences d'État, qui finissent en violences policières, parce que évidemment, la violence policière, elle vient d'une violence d'État et de toutes les violences d'État. Et c'est pour ça que nous, on voit bien, d'ailleurs, par le réseau, même dans l'Assemblée des blessés, où c'est vraiment un éclectisme de violences d'État auquel on a cette chance, et quand c'est vraiment entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir avoir une analyse assez fine, en fait, de la violence d'État qui finit en violence policière, qui finit par le meurtre. le crime, parce que c'est pour certains personnes qui ont été tuées, c'est un crime organisé. C'est pour Abdourahman au Havre, c'est un crime organisé par la brigade canine qui dure plusieurs jours. Et c'est vraiment... on est là aussi dans cette aide aux familles, mais on est là aussi pour essayer de faire comprendre en fait aux personnes qu'il y a tout un processus qui existe. Et ce processus, on voit aussi, s'étend. Il s'étend à d'autres pans de la population. Et c'est pour ça qu'on dit « personne n'est à l'abri ». En fait, il y a un moment donné où l'un d'entre nous, quand je dis « nous », c'est-à-dire je parle aux personnes qui sont à l'autre bout de la France, qui n'écoutent pas, peut-être pas là, mais à un moment donné, on est touché. Quand on veut garder, quand on est propriétaire et qu'on veut garder sa maison, on peut subir une violence d'État.
Oui, tout à fait. Bah, c'est, c'est ce qu'on répète à chaque émission, hein, c'est que la tôle, les violences d'État, bah, ça concerne tout le monde. Et que quand tu vois le nombre de personnes qui sont incarcérées, touchées par la tôle, en centre de rétention, blessées par la police, harcelées par la police, etc. Enfin bref, par la CAF, Pôle emploi, etc.
Même quand ils sortent.
Quoi.
Ça continue, il n'y a pas de rédemption. Hein. On nous fait croire dans un pays judéo-chrétien, mais au fond, la rédemption, elle n'existe pas. Hein. Tout ça, c'est...
Et comment ces victimes de la police peuvent vous contacter, par exemple ? Pour avoir des renseignements juridiques aussi possibles, parce que je sais qu'il y a des réactions à avoir immédiatement lors d'un drame de la sorte. Et c'est très important. Quand je discutais avec toi la dernière fois, quand tu me disais, j'étais vachement touchée par ce que tu me disais, parce que c'est vrai que chaque cas pense qu'il est seul quand il subit. Et c'est important de se sentir entouré et de dire ben non, la vie, elle ne s'arrête pas là, malheureusement, et qu'il faut continuer à vivre, et qu'il faut continuer à se battre, et qu'il faut continuer,
En nous contacter, il suffit de taper Réseau d'entraide vérité et justice sur Internet, il suffit de taper Assemblée des blessés. Alors, on a une problématique, et je vais juste conclure parce qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a une problématique que nous rencontrons, c'est que nous, en fait, on ne cherche pas à être célèbre. Il y a en fait tout un filtre médiatique, il y a un filtre en fait qui amène directement à un groupe d'avocats qui est médiatique, qui amène en fait à des personnes en fait qui ont plus des velléités politiques en fait que sociales ou humaines. Et donc malheureusement en fait, et c'est ça la difficulté que nous rencontrons, c'est que ces personnes-là n'arrivent pas à nous atteindre.
Ouais, il y a des vrais charognards. Hein.
Tout autour de ces personnes-là. Et en fait, comme nous, on a du mal à... Et on ne veut pas l'être. On ne veut vraiment pas... D'ailleurs, les médias, en fait, on les esquive. On ne parle pas aux médias. On parle à des amis, l'Envolée ou l'actualité des luttes. En fait, Radio Libertaire. Voilà, on parle vraiment à des personnes dont on sait. On sait qu'il y a l'humanité derrière. Mais... malheureusement, en fait, ces personnes-là, directement, sont touchées. Il y a des médias, il y a des journalistes qui cherchent à faire le buzz.
Il y a des rats, surtout.
Voilà, c'est difficile, en fait. Et la problématique, c'est que ces personnes-là, nous les rencontrons quelques mois après, ou des fois des années après, où tout est terminé, et il ne reste plus qu'à dire, ben, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Mais en fait, ils ont pris tous les écueils, ils ont tout pris, quoi. Ils ont fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire et c'est trop tard. Donc on les accueille, parce qu'on est là aussi pour, même si on ne se connaît pas tous dans le réseau, en fait ils savent que dans le réseau ils peuvent rencontrer du soutien, ils peuvent rencontrer des aides, des conseils, toutes sortes de conseils.
Des alliés.
Des alliés, oui. Même des conseils administratifs, des problèmes d'impôts. Enfin, il n'y a pas que... Il y a la vie courante, quoi, qui suit.
Tu peux tout lâcher à côté d'un problème.
Et c'est ça, vraiment, le truc qui est assez ouf avec ce que vous faites et dans le réseau d'entraide et dans l'Assemblée des blessés, c'est que ce n'est pas seulement un soutien juridique. Non. C'est-à-dire qu'il y a tout. Et en fait, la lutte, il y a une partie qui est une lutte juridique, mais il y a aussi tout le reste. Et ce que vous faites, on en a parlé un petit peu la semaine dernière avec les mutilés sur les questions psychologique et tout. Et voilà. Ça mériterait d'être développé de plus en plus.
Grave.
Peut-être qu'on pourra en reparler après le verdict.
Oui, c'est ça. Donc le verdict est attendu pour
Mélanie. Je pense que serait bien invitée Mélanie à ce moment-là.
Elle revient quand elle veut. Et donc le verdict, ça sera le 17 décembre.
16 décembre.
16 décembre, pardon. Voilà, on va entendre pareil aussi une autre violence d'État, c'est celle qui s'est abattue contre Sambali, qui a été tué par des matons à Saint-Martin-de-Ré. Il va y avoir le procès le 29, le 30 novembre prochain à La Rochelle. Il y a un appel qui est passé à rassemblement le matin à 8h30 devant le tribunal de La Rochelle, et on invite tout le monde à être présente et on écoute les paroles de Oumou, qui était un rassemblement à Nantes, enfin pas un rassemblement, pardon, à une réunion à Nantes collective, enfin voilà, où elle raconte ce qui s'est passé.
Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Diabaté Oumou, d'origine malienne. J'habite à La Rochelle depuis 2005. Et j'ai mon frère Sambali qui est arrivé chez moi en 2008. Il a eu des petits soucis parce qu'il a fait des mauvaises rencontres et tout ça. Il a été incarcéré en 2010. Et il a beaucoup souffert en prison. Beaucoup, beaucoup. Et ces problèmes sont partis parce que les matons faisaient rentrer de la cocaïne, tout ça, en prison. Et il y a eu deux bagarres de deux groupes en prison, et dont mon frère était entre les deux groupes. Le moment où les matons interviennent, il a dû dire aux matons, calmez-vous, vous aurez votre argent, voilà. Et là, son cap vert est parti de là, parce qu'il ne devrait pas le dire en public. Après, deux semaines après, il a été assommé dans la salle de sport. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui. Et après, il a été empoisonné parce qu'il a mangé une nourriture qu'après, il faisait tout sur lui. Et ça ne se passait pas. Enfin, on ne l'amenait pas à l'infirmerie. Il ne mangeait plus. Il a perdu. Il pesait 106 kilos. Et il a perdu plus de 20 kilos en deux semaines. Moi, j'étais en vacances à mon retour. Il m'a laissé beaucoup de messages, dont ma maman, parce qu'il a appelé ma maman pour lui dire, ben, je t'appelle pour te dire adieu. J'ai été empoisonnée, j'ai plus de force. Dans pas longtemps, enfin, ça, ils vont finir avec moi. Il m'a laissé un message, viens vite. À mon retour des vacances, j'ai écouté les messages. Et puis le lendemain, il m'a rappelé. J'ai demandé aussitôt un rendez-vous. Et je l'ai vu le vendredi 5 août. Et le 5 août, quand je suis arrivée, les matons m'ont fait attendre plus de 30 minutes. Enfin, notre responsable voudrait te voir avant que tu vois ton frère, parce que ça ne va pas. J'ai dit, pourquoi ça ne va pas? Elle me dit, ben, il va être accompagné de deux matons qui sont bien armés et protégés. J'ai dit, armé? Oui, parce qu'il est agité. J'ai dit, agité? Il est agité. Une seule personne agitée est accompagnée, mélotée, accompagnée de deux hommes armés. Il y a un problème, madame. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, c'est votre frère. J'ai dit, ok, est-ce que vous pouvez me laisser quand même le voir? Et elle me dit oui. Moi, mon frère était à 100 mètres de moi, je ne l'ai pas reconnu. Et je vois les deux personnes en casque bien armées. Je dis, ben, on n'est pas en guerre civile, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, il pleure, me dit, tu me prends dans tes bras. Je dis, t'inquiète. Ils nous ont fait rentrer et les deux m'attendent devant. On est quand même enfermés et ils sont devant. Aussitôt on est rentré, mon frère m'a soulevé son t-shirt, plus rien. Il avait enlevé ses chaussettes pour attacher son pantalon. Il me dit, je ne peux pas rester longtemps parce que je fais sur moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe que tu te retrouves comme ça? Il n'y a pas de médecin? Il me dit, si. Mais je suis empoisonnée, je t'ai dit. J'ai mangé quelque chose que je ne devrais pas manger. Je t'ai dit, si tu pars aujourd'hui sans moi, tu ne me reverras plus. Aussitôt, il s'est mis au sol. Moi, j'ai glissé au sol avec lui. Il était couché sur moi comme ça, sa tête sur ma jambe. Et j'ai fait signe au maton. J'ai dit, ils m'ont ouvert, j'ai dit, vous appelez votre responsable, celle qui m'a reçue tout à l'heure. Tout de suite, elle est arrivée. Je lui ai demandé, vous m'amenez des feuilles et un stylo. Je voudrais que mon frère explique tout ce qui se passe avant que quelque chose arrive. Et je vous demande de le faire hospitaliser le plus rapidement possible. Elle me dit, on est vendredi, c'est pas possible. Enfin, on va voir avec la direction le lundi, tout ça. J'ai dit, je vous dis de l'hospitaliser le plus rapidement possible. C'est pas un chien, il est humain. Est-ce qu'il n'est pas assez puni ici? Il est jeune, il n'a rien. Pas d'enfant, ni de compagnon, personne. Il n'a que sa famille. Je vous demande de l'hospitaliser. Ils me disent, on verra ça lundi. J'ai dit, par contre, vous ne me promettez pas, je dors ici. Soit vous me tuez, je ne bougerai pas. Ben, elle s'est assise à côté. Mon frère lui explique. Sauf qu'elle a noté que moi, je voudrais qu'elle finisse sa peine au Mali. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas folle. Je n'ai jamais demandé, je me soucie de sa santé, je m'en fous du Mali. Il est déjà sur place, il y a des médecins ici. Il a une direction qui est là pour les protéger. On laisse. Moi, je reste 30 minutes de plus, une heure de plus. Après, ils me disent, il faudra que vous partez. J'ai dit, ok, je peux discuter un peu avec mon frère. Elle a pris note. Elle a noté tout ce qu'elle voulait mettre, tout ce qu'elle ne voulait pas. Et puis, elle est sortie. J'ai discuté. Il me dit, je sais qu'on ne se reverra plus. J'ai dit, si, ils vont t'amener à l'hôpital. Elle dit, non. Je t'ai dit, non. Il dit, le soir, ils font tout pour finir avec moi. Je ne t'ai dit pas. Le soir, ils prennent des clés, ils font comme ça, sur sa cellule. Parce qu'il était, il est devenu fou. Il me dit, toute la nuit, je suis debout. Je fais tout sur moi. Le matin, il se moque de moi. Je dis, ça va s'arrêter. T'inquiète pas. Je m'en vais. Lundi, j'appelle pour savoir s'il a été hospitalisé. On me dit, ah, votre frère va mieux. Très bien, ça va aujourd'hui. Il est bien, il est en forme. Vous inquiétez pas, ça va. Et le lendemain, je devrais le voir, mardi. Sauf que mardi, le moment où je m'échange au travail, mon téléphone sonne. Bonjour, Madame Diabaté. On n'a pas de bonnes nouvelles. Hein. Votre frère vient de mourir. J'ai dit, quoi? Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé après. J'ai jeté mon téléphone. J'étais... À torse nu, je courais dans la cour de mon travail. Mes collègues me suivaient. Je suis devenue folle. Il rappelle. Mes collègues prennent le téléphone, ils décrochent. Et vous serez là parce qu'il y a le procureur, Madame Arras, sur place. On vous attend. On arrive avec ma cousine. Dès qu'on arrive... Il nous ouvre la porte, on n'est pas, il n'y a pas de contrôle. Hein. Tout le monde est là, la direction. Le moment où je me dirige, j'ai une maton qui vient voir ma cousine. C'est pas comme ça que ça devrait se faire. Elle commence à pleurer. Et les autres matons lui disent, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes là-bas? Elle nous dit, c'est dur. Et c'est cette dame qui s'est... tirer elle-même avec son arme de service. Et c'est parti comme ça. Les matons se sont suicidés d'eux. Parce qu'ils ne supportaient pas. Ils ont tout vécu. D'une prison à une autre, ils ont bâillonné mon frère. Bâillonné. Il y en avait plusieurs sur sa poitrine. Le sang sortait de partout. Partout, comme si, enfin, si une voiture roule sur une personne. Comme ça, je vous explique. Parce que l'émotion que j'ai, j'arrive. Je le dis, hein, ce qui s'est passé. Ils ont fini. Comme dit Christophe Merlet, ils l'ont pendu. Il était déjà mort. Hein. Après, ils coupent la corde. Ils tombent. Ils ont fini, ils ont tout nettoyé. Le maton qui a démissionné derrière expliquait qu'avant que le médecin légiste arrive, ils ont tout nettoyé, tout. Et un des matons qui se dirige vers la direction, celui qui parle, je vous tue tous et je me tue. Derrière la direction qui ont été mutés. Moi, j'ai vu l'assistante sociale le jour de son décès. Elle me dit en larmes, j'ai jamais vu un détenu aussi respectueux. Je le prenais comme mon fils. Le directeur de prison était présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un mérite de finir comme ça? Même un chien. Même un chien. On se doit tous du respect. La prison, c'est le destin. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a des choses qui tombent sur nous souvent qu'on ne s'attend pas. Ça peut arriver à tout le monde. Qui est à l'abri de ça? Qui sait ce qui l'attend demain? Qui? Est-ce que si on savait, on ferait jamais d'erreur? Personne. Si on savait ce qui nous attend demain, on ferait jamais d'erreur. L'erreur est humaine. On est en prison, on est déjà puni de tout, on est privé de tout. Ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il en finisse avec lui, comme ça, comme... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai même pas de mots. Enfin, je ne sais pas. Je suis désolée et puis je m'arrête là. Excusez-moi.
Bonjour, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Et pour le numéro de portable, c'est Alex qui va s'y coller.
C'est le 07 53 10 31 95. Et du coup, là, dans quelques secondes, enfin, normalement, on est censé recevoir un appel d'un prisonnier au centre de rétention de Vincennes. Je rappelle juste vite fait, c'est quoi comme tôle? C'est une prison pour sans-papiers. Ça fait partie des plus grosses prisons pour sans-papiers, en fait, de France, parce qu'il y a 240 places. Hop, et... Allô.
Bonsoir.
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 Salut. Ouais.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, bien, bien.
Du coup, on voulait revenir un peu avec toi sur comment ça se passe en ce moment dans le CRA de Vincennes.
Ouais, bah, dites-moi, je vous écoute.
Ouais, bah là, avant l'antenne, là, quand on se parlait, on avait commencé par les histoires de violences policières.
Ouais.
Est-ce que toi, t'as envie de revenir un peu sur comment ça se passe là, en ce moment? Parce que du coup, juste pour expliquer, dans les centres de rétention, les matons, c'est des flics qui font partie de la police aux frontières.
Déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont posé plainte contre la police, déjà, d'ailleurs. Et
ça donne quoi?
Des violences... Là, toujours, il y a des violences la nuit, ils laissent les gens se bagarrer, tout ça, entre eux, ils se tuent, jusqu'à la fin, et vient pour les ramener déjà, d'ailleurs, aux Jeux de Monde.
Ok, du coup, en gros, c'est parce que, moi, c'est ce qu'on me racontait récemment, en ce moment, c'est pas mal tendu entre prisonniers au centre de rétention de Vincennes.
Ouais, mais c'est à cause de la police, c'est ça, hein. Même ils ne viennent pas jusqu'à qu'il y a du sang, qu'il y a des blessés, c'est là qu'ils viennent. Mais après, c'est pas encore fini les matchs, tout ça là. Après, dès qu'il finit le match, on va venir. Okay. C'est des bagarres, ça veut dire, c'est des bagarres. Le match, c'est des bagarres. Et, moi, j'ai des gens ici qui étaient à l'hôpital à l'extérieur. Ils n'ont pas dit comme quoi aux médecins ici, ils n'ont pas dit comme quoi c'est la police qui l'ont frappé jusqu'à qu'ils sont sortis à l'hôpital pour faire les radios, tout ça. Et c'est là qu'ils ont prononcé comme quoi c'est la police qui l'ont frappé. Parce qu'il ne peut pas parler ici. S'il parle d'ici, il va voir pire.
Et du coup, moi, je me demandais, toi, tu sais comment ça se passe pour les plaintes? Il y a des résultats, genre?
Ouais, mais il y a des plaintes, mais il n'y aura jamais du continuation, hein, toujours, ils mettent le truc en dessous de table.
Est-ce que quand vous faites des plaintes, ils précipitent les expulsions?
Non, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a personne qui part, c'est juste volontairement.
Mais faut rien lâcher, parce que tu sais, quand vous portez plainte, c'est souvent les mêmes flics qui sont incriminés la plupart du temps. Et arrivé un moment, à force de voir des plaintes, ils pourront plus défendre ces gens-là, tu vois.
Bah, après, pour te dire, au centre de rétention de Vincennes, par exemple, il y avait une équipe de keuf qui était connue pour être violent au niveau de la fouille.
Et, moi, je suis d'accord avec vous.
Et tu vois, en fait, il y a eu plein de plaintes de prisonniers, parce que nous, là, ça fait 3 ans qu'on a régulièrement des appels du CRA de Vincennes, et des plaintes, ou même des fois l'IGPN qui s'est déplacé à Vincennes. Le seul truc que ça a amené, c'est qu'il y ait un gars qui soit mis à la fouille, quoi.
Moi, il y a une équipe en particulier qui sont, il y a des agents qui sont très racistes, je m'en fous, ils s'en foutent de ce qu'on, on les appelle, ils soufflent, ils s'en foutent, genre.
Je peux te poser une question? Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que je peux te poser une question? T'as vu, moi, quand j'ai été en prison, et souvent, les matons, c'est souvent les mêmes équipes qui sont violents. Est-ce que c'est souvent, tu sais, il y a les équipes de nuit, les équipes de jour. Est-ce que cette équipe que tu parles, c'est une équipe de jour, une équipe de nuit? Est-ce que c'est, ça tourne?
Okay. Et quand je les ai appelés parce que j'étais en train d'être agressé, l'agent, il est venu, il a dit, ouais, c'est vous. Et il me dit, j'entends souvent parler de vous. Et parce que je sais pas me défendre, et genre ça le saoule, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, j'ai compris, ouais. Ça, en vrai, ça le saoulait de venir et de se déplacer, ouais. Mais tu sais, ça aurait été toi, ou c'est toi ou quelqu'un d'autre, c'est la même, ça aurait été le même discours, en vrai, hein, tu vois.
Oui, c'est une équipe en particulier, et vraiment, c'est une équipe, on dirait, des beaufs, un peu, genre.
Ouais, il y en a pas mal à Vincennes, hein, des keufs qui ont l'air de beaufs. Et moi, je me demandais, c'est un peu une question.
Ils sont déjà mal poulés, déjà.
Et quand les mecs, ils parlent pas français et tout, franchement, les pauvres. Moi, tu vois, ici, j'arrive à un peu faire leur courrier et tout. Je peux, si je suis là et que je vois qu'il y a quelqu'un qui parle pas français, il peut me demander quelque chose. Je vais lui dire, je vais le faire, parce que voilà, c'est un frère, on est dans la même galère, tu vois. Mais je vois leur tête et tout. Franchement, c'est du racisme, j'en ai caché, tu vois.
Ouais, tu les déranges un petit peu, les flics, ça les...
Ouais, ils se moquent de nous.
Ils sont mal...
Genre un mec, il va demander un truc, il va pas pouvoir s'exprimer, genre il va faire « je comprends pas », et il va passer autre chose, il va le laisser comme ça dans sa galère.
Heureusement, moi, je l'ai
traduit. Tout le temps.
Ouais, du coup, heureusement, il y a la solidarité entre prisonniers, quoi.
Ouais, mais il y en a certains solidarités, ça, j'avoue. Mais il y a certains, comment dirais-je, chacun comme
au
pays ou quoi.
Oui, beaucoup dans les par exemple les Sénégalais, les Ivoiriens, les Marocains, les Algériens, on est entre nous, chacun il est entre eux, mais tu vois, après, s'il y a des histoires, comme partout, t'as vu, il y a des histoires. Tu vois, même dehors, il y a des histoires.
C'est pas ici, mais tu sais, en prison, c'est pareil, hein, ça, mais ça, c'est eux qui le veulent, en vrai. Ça les arrange que chaque religion.
Ils savent que s'ils font des histoires, il va rien se passer.
Oui, ils placent les gens par communauté, tu captes. Même les chambres, généralement, ils les placent comme ça. Non?
Oui.
Déjà, les policiers sont déjà vulgaires, déjà. Entre eux, ils parlent
entre eux, mais c'est un truc de malade. Hier soir, je t'ai bien bouffé la chatte, mais d'ouf.
Ouais, je te bouffe la chatte. Bisous, tu veux un bijou,
Bisous, ma chérie.
Devant les détenus.
Ouais, le PD, il voulait quoi, mais des trucs
comme ça. Je te confirme, c'est vraiment des vieux beaufs. Je te confirme.
Des trucs comme ça, tu vois.
Et la nourriture, je dis même pas.
Accompagnée de vieux dégueulasses.
La nourriture, c'est souvent la date d'hier, le périmé. Dépassé.
Ils changent même la date, des fois.
Des fois, tu vois, le truc, il est déjà ouvert. Son côté, l'étiquette, elle est décollée, ils changent la date. Trop bizarre.
Et déjà,
même nous, on se regarde, on mange pas. On se dit, on mange pas, on mange pas et tout.
On mange juste pour survivre.
On mange juste parce qu'on a faim.
On sait qu'il y a des médicaments, qu'il faut dormir et tout ça, là, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font.
On sait pas ce qu'ils font. C'est même pas chaud, on mange froid. C'est même pas chauffé. Dans le micro-ondes, on a mangé froid tout à l'heure.
Bah, tous les jours, c'est même pas tout à l'heure.
Tu vas pour chauffer le truc, ils te disent non. Si je dois chauffer, je chauffe tout le monde. Donc, t'arrives en troisième position, genre ça a ouvert il y a 5 minutes. Au bout de 5 minutes, les trucs, ils refroidissent, tu vois. Bah, eux, ils s'en foutent. Genre, tu vas manger de la purée froide parce que c'est comme ça. Et on est là, on est obligé de manger parce qu'on a faim. On crève la dalle ici.
Ouais, parce qu'il faut rappeler que les horaires de repas, en fait, c'est 18h, parce que comme ça, ça leur permet de passer à l'équipe de nuit et d'avoir moins de keufs qui sont présents, quoi.
Ouais, parce qu'on mange que deux, ils donnent juste deux fois par jour, c'est tout, hein.
La police, elle parle mal. Elle parle trop mal. Elle parle trop mal, la police. C'est un truc de mal. Déjà, quand tu dis, ils disent pas bonjour, quand ils passent et tout, ils arrivent, ils regardent mal. Nous, on est là, on est devant la télé, genre, ils viennent en mode...
Et t'éteins la télé, même.
Et, ouais. Ouais, bah, c'est qui a changé la chaîne? Bah non, bah, c'est l'heure des...
Pour regarder leur série de soir et tout ça.
Ouais, la télé, à partir de 2h du matin, elle est éteinte. Tu peux plus regarder la télé. Tu peux plus regarder la télé à partir de 2h du matin. Et ça, c'est l'équipe de beauf, là. C'est eux, quand ils sont là, c'est ça, comme ça, ça se passe.
Ouais,
c'est comme ça que ça se passe. La nourriture, laisse tomber. Les draps, la propreté. Vous savez qu'il y a des pigeons qui dorment dans le gras ou pas? Des pigeons, genre, qui vont mourir. Genre, ils sont en fin de vie. Il y en a partout. Vous savez ou pas, ils font caca partout, là.
Ouais, mais même quand tu vas en parloir et tout, là, dans le box, là, enfin, dans leur préfabriqué en étage, là, tu vois des pigeons morts sur le côté de la route.
On n'a pas de gel. On n'a pas de gel hydroalcoolique.
Sérieux, vous n'avez toujours pas mis de...
Le masque,
quand tu rentres à l'intérieur...
C'est dès que tu dépasses le portail pour aller dans les trucs à l'infirmerie, c'est là où on te donne un masque. On n'a pas de masque contre nous.
C'est eux qui vous les donnent, les masques, ou pas?
Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel.
Tu as droit à un masque par jour.
T'as accès à la boîte? Est-ce que tu as accès à la boîte quand tu le prends? Pour regarder s'il est pas parce que des fois il y a des masques qui se sont périmés, tu sais qu'il y a une date de péremption même pour les masques.
Oui.
Il est fort possible que vous ayez des masques périmés en vrai.
Mais ça, tout
même la nourriture c'est périmée, c'est pas.
Bah oui, c'est pour ça, c'est pour ça.
Même le gel, on n'a pas de gel ici.
On n'a pas de gel. Il y en a, ils sont contrôlés positifs au truc. Genre, il y a un mec, il y a deux jours, ils lui ont fait le test parce que le mec il voulait rentrer. Bah, il a été contrôlé positif. Il est revenu de l'infirmerie. Il a dit, bah, j'ai le Covid. Genre, il me dit ça à moi. Mais, et après, il se pose dans la salle télé normale et tout. Il regarde la télé avec nous, tout ça.
Ah, ils l'ont même pas... Ça,
mais
c'est pas normal, ça.
Mais c'est pas normal.
Normalement, il faut qu'on le ramène à l'hôpital. Il faut qu'il soit isolé.
Il faut même pas qu'il soit avec nous. Il aurait même pas dû parler avec moi.
En tout cas, il faut le libérer immédiatement, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas garder quelqu'un enfermé.
L'infirmerie me dit, j'ai le Covid et tout, ils vont m'envoyer dans un truc et tout. Le mec, juste du matin jusqu'au soir, il est avec nous. Et je vous parle de lui, mais il y en a plusieurs qui ont eu le Covid que je connais.
Déjà, on ne parle pas de ça.
On sait qu'ils ont le Covid. Ils ont eu le Covid.
On a oublié le Covid. Il y a un mineur, il est juste à côté, 2004, il est là.
Il y a un mec, il est né en 2004, il est là, ils veulent l'expulser. Il est mineur.
Il est mineur.
Ouais, ça,
jusqu'à quand hier et avant-hier, j'ai parti à la SPAM pour que je lui dise et communiquer avec la Croix-Rouge parce que lui, ils l'ont déjà fait le test.
Ils ont le droit d'expulser un mineur.
Des dents et tout ça et de l'os. Ils l'ont trouvé, c'est un mineur de 2004.
Comment ça se fait? Il est né en 2004.
Ah ouais.
Ils veulent l'expulser.
Ouais, c'est un truc de ouf parce qu'il a fait les tests osseux, quoi.
Il était au foyer déjà d'ailleurs. Il était au foyer.
Il était au foyer de mineurs isolés.
Et ça, c'est totalement illégal, hein, à la fois d'enfermer un mineur isolé, qui est censé en fait être pris en charge et protégé par l'État.
Mais avec nous, il ne peut pas parler parce qu'il ne parle pas bien français, vous voyez.
Il ne parle même pas, il ne sait même pas ça veut dire quoi, bonjour ou bonsoir.
Bah, en tout cas, plein de force à lui, et bah, voilà, on espère que la Croix-Rouge aussi, de son côté, elle va se bouger, quoi. Moi, je me demandais, parce qu'il reste...
Salam, pas de
salam. Je suis mineur, je suis mineur.
Allez, je suis mineur. On met le cas.
Voilà, il a attendu, vous avez attendu sa voix.
Ouais.
Il parle
que
l'arabe.
Ouais, il serait temps que la femme, là, qui est l'assaut dans le centre...
C'est un Égyptien, le pauvre, ici. C'est un Égyptien. Il a un enfant à l'extérieur, il est là, il galère.
Il a un enfant français.
Français.
Il veut le renvoyer. C'est pas normal.
Et moi, d'ailleurs, je parle même pas de moi. Moi, je suis marié avec une femme française et j'attends juste mon récépissé, déjà, d'ailleurs, parce que j'ai déjà les papiers juste pour renouvellement. Et j'ai un enfant de 10 ans. D'ailleurs, il va avoir 10 ans dans le 9 décembre. Et il est scolarisé et j'ai la garde partagée avec la juge du tribunal de familial. Je sais pas, même ma fille, c'est pas que je suis là, je lui dis je suis en voyage, je travaille et tout, c'est pour ça que je lui parle. Avant que je le parle avec elle, sa maman, il m'a dit comme quoi, il t'appelle et tu ne le réponds pas. Il a dit comme quoi, Il est où mon papa? Il me répond plus, il m'aime plus. Pourquoi il me répond pas? Alors ça, parce ça me fait mal.
Là, parce que ça fait longtemps qu'on est là, nous, en France. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, ça fait, je sais pas combien de temps il est là en France. Ça fait, l'Égyptien, il a des enfants en France. Je peux pas expliquer à quelqu'un qui a des enfants. Normalement, c'est interdit, là, de parler droits de l'homme.
Ouais, mais la loi, maintenant, elle permet ça, quoi.
Il n'y a pas de démocratie ici. Tu parles de la démocratie.
Interdit des droits de l'homme de séparer une famille. Rien que ça, déjà. Comment tu peux mettre quelqu'un au cran alors que la personne, il a des enfants en France? Et il prouve qu'il a des enfants, il ramène tous les papiers. Mais la femme, eux, ils falsifient les papiers. Ils donnent pas les papiers à l'avocat. Moi, mon avocat, il m'a dit, j'ai pas ton adresse, j'ai pas les papiers de ta famille.
Ah, moi, d'ailleurs, j'ai...
Les papiers, je les ai ramenés à la femme. Et la femme, ils ont mis dans le truc, et genre, ils l'ont envoyé, et l'avocat, il les avait pas. Ça veut dire, quand je suis passé devant le juge...
Vous avez pas tous les éléments. Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vous parle de moi. Et l'Égyptien, c'est la même chose. Les papiers de sa fille, de son fils, les extraits de naissance, ils n'ont pas donné. Ils ne donnent pas. C'est ça quand je vous dis falsifie. Ça veut dire qu'ils ne donnent rien.
Ouais, ils sont complices, quoi. Ils gardent les infos pour eux. Et il faut juste dire pour les gens qui écoutent.
Rien.
C'est qu'en fait.
J'ai les vrais de famille. J'ai les vrais de famille avec ma femme française. J'ai le jugement de la garde partagée de mon enfant. J'ai un appartement dans le 16e arrondissement avec ma femme, le donnant. Dans le 16e arrondissement, j'ai l'électricité, le donnant. J'ai la banque, le compte bancaire, le donnant. Ils veulent quoi d'autre? C'est eux qui sont en train de construire des monstres ici, là. C'est pas... Nous, on n'est pas des monstres, on est des humains. On a des cœurs, on a des sangs qui coulent dans nos veines.
Ils nous laissent entre nous, je vous jure. Ils nous laissent entretuer entre nous. C'est vrai, c'est réel. Il y aura une bagarre, c'est nous, on va s'occuper de faire la sécurité. Entre nous. Sinon, il y aura des morts.
Après, ça, c'est ça qu'ils cherchent, hein, c'est de vous diviser.
On est obligé de rentrer dedans. Et quand la police, ils regardent au bout de 10 minutes, c'est là qu'ils viennent. Et les personnes, ils saignent, le nez, il est cassé, la dent, elle est cassée. Vous voyez ce que je veux dire? Ils attendent que, genre, il y ait du sang pour venir.
C'est quand le match est fini.
C'est ça qu'ils disent, le match, il est fini. Et pour les papiers, moi et un autre. Ils font pas signer les papiers. Ils font pas signer les papiers. Les gens qui savent lire, ils leur font signer des papiers bizarres. Moi, j'ai lu que il y a un Algérien, il m'a montré un papier comme quoi, oui, j'accepte de retourner. Vous voyez le truc pour retourner là?
Ouais, l'aide de retour volontaire.
Vous voyez de quoi je vous parle? Le papier pour retourner de manière.
Ils ont dit signe, ils ont voulu raconter un mytho.
Signer ça, sans qu'ils sachent.
Ah, c'est honteux.
Il savait pas c'était quoi. Après, il m'a dit, ouais, et tout, et c'était mon code dans ma chambre et tout. J'ai dit, ouais, moi, je lui montre les papiers que j'ai, tout ça et tout, ouais, que j'ai travaillé, mes fiches de paye, tout ça et tout. Il montre ça. Après, il montre le papier, et je dis, tu veux rentrer au bled? Il me dit, non, moi, je vais pas rentrer au bled. Je dis, mais c'est le papier pour rentrer au bled, ça. Ils vont te donner de l'argent et tout, pour rentrer au bled et tout, quand tu vas arriver au bled. Il me dit, non. Je dis, ben, si, t'as signé. Il me dit, non, j'ai jamais signé ça. Et je dis, ben, si, frère. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Moi, j'ai fait une demande de réfugié. Ma demande, elle est arrivée. Ils m'ont mis refus de signer. Ils m'ont envoyé dans le coffre. Ma demande, ma réponse. Ça veut dire, pour faire le recours, la réponse, j'ai attendu un mois. Les gens de la femme, ils m'ont dit, wesh, la réponse, pourquoi tu l'as pas encore? J'ai dit, bah, je sais pas. C'est un jour, j'ai dit, ouais, je vais aller au coffre. Je vois, il y a une enveloppe dans mon coffre. Et c'était ça. Il y avait marqué refus de signer. Alors qu'ils m'ont jamais demandé, ils m'ont jamais montré la réponse. C'est que des trucs comme ça pour te... C'est une secte, on dirait. Je sais pas comment ils travaillent, mais ils veulent pas travailler. Ils font du n'importe quoi avec les êtres humains qui sont ici, je vous jure. On mange mal.
On n'est pas des humains.
Moi, j'ai travaillé dans la restauration. La chaîne du froid, elle est pas respectée. La nourriture, elle passe devant nous tous les jours. Elle passe devant nous, le pain, il est dans des cagettes. Vous voyez les cagettes là où tu mets les tomates et tout là.
Les gars, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Ça fait chier. Il nous reste 2 minutes d'antenne et va falloir qu'on rende. Voilà, désolé d'avoir fait vraiment si court et merci d'avoir pris le temps de témoigner. Mais on va, on vous rappelle après. Voilà, on doit vous laisser, mais on vous rappelle après. Plein de force à vous, plein de force au poteau qui a parlé rapidement. Je suis désolé, on va passer à autre chose. On vous rappelle tout à l'heure.
Allez aux droits de l'homme, allez s'il vous plaît à l'ONU.
On diffuse vos paroles et tout ça, et puis vas-y, on en reparle tout à l'heure. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on rentre dans un thème dans une minute. Plein de force à vous, à tout à l'heure. Ciao. On a plein de trucs à annoncer. Tout d'abord, demain, à partir de République.
Ouais, il y a une manifestation féministe demain et un appel à un cortège féministe anticarcéral. Le lieu de rendez-vous, c'est 14h à l'angle entre la place de la République et l'avenue de la République.
Il y a le 27 novembre à Lyon, à 14h au métro La Charpène, contre les crimes et les violences policières et pénitentiaires. Le 4 décembre à Marseille, 14h au Vieux-Port, Zineb, en hommage à Zineb. Okay, le 4 décembre, pareil aussi à Rennes, ça sera sûrement au quartier Morpa. Voilà, on appelle aussi tout le monde à se pointer au tribunal à 8h30 de La Rochelle le 29 décembre pour soutenir Oumou. Voilà, on va passer 2-3 petits coucous. Un salut à Libreflo, à l'infâme, à Fabrice.
À tous les prisonniers et prisonnières de France, et encore mille excuses aux gens à qui on est obligé de raccrocher très vite. Grave. C'est vraiment, ça me peine. Voilà.
Et un big up aux copains de Billancourt qu'on va voir, on va se voir demain. Plein de force à toi.
Ouais, et je sais pas s'il y a d'autres petits coucou. En tout cas, rediffusion mercredi matin.
9h30, 8h30. Ouais. Force, courage et détermination. Bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement. À la semaine prochaine.